Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 9 mai, on se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction. Comme d'habitude, c'est un véritable tour du monde que nous allons vous proposer avec les envoyés spéciaux et les correspondants de RFI. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission, la podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Cette semaine, nous sommes en compagnie d'un grand connaisseur de l'actualité africaine, notamment il s'agit de Sadiq Abba, notre complice Sadiq Abba. Bonjour Sadiq.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et d'abord, je dois signaler, ça va être le cœur de notre émission, l'apparition de votre dernier livre en date, Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel, un livre publié chez L'Harmattan. Alors, en quelques mots, tout de suite, Sadiq, qui était Boubacar Ba?
Boubacar Ba, c'est un illustre intellectuel nigérien, c'est peut-être le meilleur d'entre nous, pour reprendre une expression. Il a eu un parcours très brillant. Très brillant, premier africain à entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de mathématiques, une discipline qu'il a enseignée pendant 28 ans, à la fois en France, au Niger, en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Et il a créé, par exemple, l'Institut de recherche en mathématiques à Madagascar où il était. J'ai estimé, compte tenu de son parcours et compte tenu de sa connaissance de l'histoire, qu'il fallait recueillir son témoignage et le partager avec les Nigériens et les non-Nigériens.
Alors, votre livre, Sadiq, est un livre d'entretien et de ces entretiens apparaît une personnalité incroyable. Ça avait l'air d'être quelqu'un à la forte personnalité.
Incroyable par sa personnalité aussi, parce que Boubacar Ba est un homme de conviction, de sincérité, qui dit les choses comme il les pense. Et c'est un homme qui m'a impressionné par sa modestie. J'ai dû lui imposer ce livre d'entretien parce que lui m'a dit « Je suis plus à l'aise dans mes formules mathématiques que dans une exposition à la lumière, ce que me donnerait ce livre. » Donc j'ai dû le persuader d'accepter et c'est tout ça qui fait, de mon point de vue, la qualité de Boubacar Ba. Certains, pour une notoriété et une connaissance beaucoup moins importante, se sont pris pour des grands savants, alors que lui, avec un tel niveau de connaissance, fondateur, premier recteur de l'université de Niamey, qu'il a créé quasiment de ses mains avec le soutien de Diori Amani, Boubacar Ba est resté un homme quasiment anonyme.
Alors nous allons commencer, Sadiq, à parcourir le monde pour vivre l'actualité de ces derniers jours. Et partons tout de suite pour l'Arabie Saoudite où François Hollande s'est rendu cette semaine après avoir signé quelques contrats juteux. Envoyé spécial Nicolas Falaise.
C'est un voyage emblématique de la diplomatie économique voulue par la France. Avec au Qatar la vente de 24 avions Rafale, puis en Arabie Saoudite, des discussions portant sur 20 projets commerciaux susceptibles de générer plusieurs dizaines de milliards d'euros de commandes pour l'industrie française. Pour François Hollande, ces perspectives existent parce que la France a une politique crédible aux yeux des monarchies du Golfe, mais ce n'est pas pour les retombées économiques que nous agissons comme nous le faisons dans la région, a tenu à préciser le président français juste avant de quitter Riyad. Entre la France et les pays du Golfe, les positions sont en tout cas très proches. Nucléaire iranien, Yémen, lutte contre le terrorisme, Syrie. Nous ne sommes pas indifférents au chaos qui menace plusieurs pays de la région, explique François Hollande. La France en pleine lune de miel avec les monarques sunnites du Golfe ferme-t-elle les yeux sur les entraves à la liberté d'expression et sur la situation des droits de l'homme dans ces pays? Interrogé sur la peine de mort en Arabie Saoudite, 78 exécutions depuis le début de l'année, François Hollande assure « La France milite à l'échelle du monde pour l'abolition de la peine de mort et je le fais ici aussi. »
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. La journée d'hier a été marquée par les commémorations des 70 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, les commémorations ont lieu à Moscou. Je vous propose de nous retrouver demain pour le magazine Idées, car nous allons vous proposer une visite de la très intéressante exposition Churchill-De Gaulle aux Invalides à Paris, avec plein d'archives, de trouvailles. Une émission concoctée par Vanessa Rovensky, demain, 17h10, heure de Paris.
7 jours dans le monde.
Et avant de vous écouter à nouveau, Sédic, avant de vous retrouver, n'arrêtons-nous maintenant un instant en Israël. L'armée a infligé des préjudices massifs et sans précédent aux civils palestiniens pendant la guerre de Gaza de l'été 2014 en tirant à l'aveugle et en négligeant ses règles d'engagement. Tout cela selon une ONG israélienne qui s'appelle Rompre le silence dans un rapport publié lundi, correspondance de Muriel Parado.
La même histoire revient souvent, brutale. Celle d'un vieillard palestinien pris pour cible par un soldat israélien. Il est blessé, un autre soldat vient l'achever. Plusieurs militaires témoignent de ce genre d'attaque contre des civils palestiniens durant la guerre à Gaza l'été dernier. Selon les récits recueillis anonymement par l'ONG Breaking the Silence, les soldats avaient eu des ordres clairs. Si vous apercevez quelqu'un, tirez. Les civils n'étaient pas censés demeurer dans les zones d'intervention, ils avaient été prévenus de quitter les lieux, ceux qui restaient étaient forcément suspects. Les témoignages font aussi état de destruction disproportionnée. Il fallait marquer notre présence, témoigne un soldat. Pour Breaking the Silence, certains ordres donnés par l'armée durant la guerre à Gaza étaient immoraux et non éthiques. Ils ont conduit à la mort de 1500 civils palestiniens. Avec son rapport, l'ONG espère toucher les consciences des Israéliens qui ont surtout été informés des pertes israéliennes durant la guerre, 73 morts dont 6 civils, alors que le drame des Gazaouis a été très peu évoqué en Israël.
J'ajoute que Benjamin Netanyahou a réussi à former un gouvernement jeudi, un gouvernement très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, cette semaine, des policiers israéliens ont chargé à cheval et fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de falachas, ces juifs originaires d'Éthiopie, lors d'une manifestation d'une rare violence au centre de Tel Aviv. Une semaine d'actualité, vous voulez réagir à cette actualité israélienne pour commencer ce magazine?
Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les extraits de ce rapport. Il donne froid au dos. À un certain moment, certains militaires israéliens disent que la guerre était devenue une sorte de jeu vidéo pour eux. Ils tiraient pour s'amuser, ils tuaient pour s'amuser. Et je trouve que cela est totalement inacceptable, immoral. Mais il faut maintenant envisager de donner une suite à ça. Il ne suffit pas de dire que des crimes ont été commis, des choses ont été commises. Je pense que la justice israélienne doit pouvoir enquêter sur ces faits, établir les responsabilités et punir. Et si elle ne le fait pas, il faut que la justice internationale se saisisse, parce que il n'y a pas de raison qu'on dise que des crimes ont été commis par l'armée israélienne qui restent impunis et que ailleurs dans le monde, par exemple, ça pourrait encourager des pays comme l'Est de la RDC où des crimes sont en train d'être commis à dire, puisqu'il y a une impunité ailleurs, ici aussi, on peut avoir de l'impunité. Donc, il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité. Et même la guerre a des règles. Il faut que les règles de la guerre soient respectées. Et
le voyage de François Hollande en Arabie Saoudite vous inspire un commentaire. La diplomatie, la fameuse diplomatie commerciale.
Ah oui, la fameuse diplomatie commerciale, si chère à Laurent Fabius, commence à marcher. La diplomatie économique commence à marcher.
Les rafales
se vendent. Il y a le Qatar qui a passé une commande de rafales. Il y a d'autres, l'Inde a passé déjà. D'autres commandes sont attendues. Je crois que Hollande aussi profite de un peu du refroidissement des relations entre ces pays-là et les États-Unis du fait de la position américaine à aller vers un compromis avec l'Iran sur la question du nucléaire. Et les pays du Golfe considèrent ça comme une sorte d'éloignement de la part de l'allié traditionnel qui est les États-Unis. Ça profite opportunément à la France. C'est qu'il y a une bonne chose pour Hollande. S'il peut engranger des contrats de ce type et inverser la courbe de chômage, puisqu'on sait que il a dit la fameuse courbe du chômage, puisque c'est la condition pour qu'il se présente, pourquoi pas, c'est une bonne chose pour lui.
Une semaine d'actualité.
Toujours en compagnie de Sédic Abba, et nous allons, Sédic, parler des élections générales en Grande-Bretagne jeudi. Et surprise, contrairement à ce que les sondages prédisaient, il faut toujours se méfier des sondages, les conservateurs l'ont emporté largement à la majorité, ils ont la majorité absolue, défaite sévère donc des travaillistes, et raz-de-marée, comme on dit, des indépendantistes en Écosse. Écoutez David Cameron, hier vendredi.
Certains disent qu'il n'y a qu'une enquête d'opinion qui compte et c'est celle du jour de l'élection. Et ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. C'est clairement une très grande nuit pour le Parti conservateur. Je crois que nous avons obtenu une réponse positive à une campagne positive, redresser notre économie et créer des emplois. Il ne s'agit pas seulement de reconduire un gouvernement qui a été en place pendant 5 ans, mais d'avoir un plan pour les 5 ans à venir, un plan basé sur des valeurs claires. Durant cette campagne, j'ai voulu reparler des décisions difficiles que nous avons eu à prendre durant ces 5 dernières années, des bases d'une économie plus forte que nous avons mises en place pour notre pays. Maintenant, nous avons la possibilité, la chance de construire sur ces bases. Donc, si vous voulez un emploi, si vous voulez être propriétaire de votre propre maison, si vous voulez la sécurité et la dignité à la retraite, nous sommes de votre côté.
Après le vainqueur, le vaincu, le travailliste Ed Miliband, qui a annoncé d'ailleurs hier, vendredi, sa démission. Les résultats sont encore en train d'arriver, mais ça a été clairement une nuit très décevante et difficile pour le Labour. Nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés en Angleterre et au Pays de Galles. Et en Écosse, nous avons vu un sursaut de nationalisme emporter notre parti. Et je veux dire à tous mes collègues en Écosse qui ont perdu leur siège, je suis profondément désolé de ce qu'il s'est passé.
Suite d'une semaine d'actualité, que se passe-t-il au Yémen? C'est la question, Sadiq Abba. La guerre plus que jamais, alors que l'offensive saoudienne avec sa coalition contre les Houthis est officiellement terminée. Sami Boukhalifa fait un point mercredi.
Officiellement, le Yémen n'est plus en guerre, mais en phase de reconstruction. L'opération militaire Tempête décisive a laissé place le 21 avril dernier à une nouvelle étape baptisée Restaurer l'espoir. Une étape durant laquelle les rebelles Houthis, leur parti politique Ansarullah, les représentants de la société civile et du gouvernement sont censés stopper les combats et réamorcer le dialogue. Mais en attendant, le seul langage que les uns et les autres semblent comprendre, c'est celui des armes. À coups d'obus de mortier, les deux camps continuent de se massacrer et au milieu des tirs croisés, les civils sont considérés comme les dommages collatéraux de cette lutte acharnée pour le pouvoir. Pour ne rien arranger à leur situation, l'Arabie Saoudite a imposé un blocus contre le Yémen. L'objectif est de couper les voies d'approvisionnement des rebelles Houthis. Seulement voilà, ces voies servent également aux populations et aux agences humanitaires pour l'acheminement des aides. Ce mercredi, ces agences demandent la réouverture urgente des voies terrestres, maritimes et aériennes pour laisser passer nourriture, carburant et matériel médical.
Suite d'une semaine d'actualité aux États-Unis maintenant, deux hommes, dont l'un était connu des services antiterroristes, ont ouvert le feu lundi soir au Texas, aux abords d'un concours de caricatures représentant le prophète Mahomet, avant d'être abattu par la police. La fusillade s'est produite à Garland, dans la banlieue de Dallas, et elle a été revendiquée par l'Organisation de l'État islamique. Correspondance d'Anne-Marie Capomaccio.
C'est la première fois que le groupe État islamique revendique une attaque menée sur le sol américain. Et dans cette revendication postée sur un média proche du groupe terroriste, ces derniers promettent d'autres actions en Amérique, ce qui inquiète beaucoup ici. Pour l'instant, les rares informations distillées par le FBI et la police de Garland n'établissent pas de lien tangible entre les deux hommes qui ont attaqué le centre de conférence du Texas et le groupe État islamique. Pas de voyage en Syrie ou dans la région par exemple. Cela ne signifie pas pour autant, expliquent des spécialistes, que les deux tireurs, Elton Simpson, repérés par le FBI en 2007, et Nadir Soufi, ne se sont pas inspirés du mouvement. Le groupe terroriste a pu ensuite labelliser ou endosser, entre guillemets, l'acte commis par les deux hommes qui ont attaqué l'exposition de caricatures de Mahomet. L'un des officiers les ayant abattus avant qu'ils n'entrent dans la salle, l'enquête ne sera pas facile. On fouille dans le passé d'Elton Simpson et Nadir Soufi. Leurs mouvements et leurs communications sont passés au crible. Le mot terrorisme n'a pas encore été prononcé par la police de Garland.
Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Sadiq Abba, avant de retrouver ce grand monsieur Boubacar Ba, je voudrais qu'on en s'arrête un instant sur ces élections en Grande-Bretagne. Quelle surprise d'abord sur la forme. Les sondages se sont totalement trompés.
Je pense qu'il faut tirer la conviction que ce n'est pas une science exacte, les sondages.
C'est moins qu'on peut dire.
Même dans un pays comme la Grande-Bretagne, où la tradition de sondage existe depuis trop longtemps. Moi, je pense que David Cameron a beaucoup capitalisé sur les résultats.
Majorité absolue des conservateurs.
Il a capitalisé d'abord sur les résultats de sa gouvernance, puisque le taux de chômage est très bas par rapport au reste de l'Europe, la croissance économique est bonne, la Grande-Bretagne se porte très bien dans un environnement, il a capitalisé sur là. Maintenant, il y a aussi les conséquences au plan européen de cette victoire, puisque Cameron s'est engagé auprès de ses électeurs à organiser un référendum sur la sortie de l'Europe.
Donc, il s'est en quelque sorte piégé.
Il s'est piégé, sachant que beaucoup de pans entiers de la société britannique ne veulent pas de sortie de l'Europe. Notamment, les milliers d'affaires considèrent que sortir de l'Europe est une erreur catastrophique pour la Grande-Bretagne.
Et il y a aussi cette poussée, cette victoire absolue des indépendantistes écossais.
Absolument.
Qui ont raflé tous les sièges en Écosse.
Qui ont raflé quasiment tous les sièges, je crois 58 sur 59. Donc, c'est clair que là aussi, il y a quelque chose à regarder, puisque la première fois, ils ont échoué à obtenir la sortie de la Grande-Bretagne. Maintenant, s'ils s'installent durablement au pouvoir, ils peuvent toujours remettre sur la table cette idée d'indépendance de l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne.
Sadiq Kaba, nous allons dans la deuxième partie nous rendre en Afrique, comme d'habitude, mais je voudrais déjà qu'on y aille un petit peu. Il se trouve que dans l'actualité, là, on a appris hier, vendredi, que 18 communes vont changer de pays entre le Burkina Faso et le Niger, ce qui pose le problème de la frontière tracée. Et d'ailleurs, j'attire l'attention des auditeurs que nous avions consacré un numéro d'idée le 19 avril dernier aux frontières du Niger avec Camille Lefebvre. Je vous recommande de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et vous dites, dans ce livre d'entretien avec Boubacar Ba, vous lui posez la question de ses origines et lui répond « Je suis né ». Je suis un citoyen de l'AOF.
C'est ça. Boubacar Ba, dans le livre, explique qu'il est un citoyen de l'AOF parce que
l'Afrique occidentale française,
à l'époque, qui comprenait ce qu'on appelle le Soudan à l'époque, qui est le Mali, qui comprend le Sénégal, le Niger, le Bénin, toute la partie occidentale de l'Afrique qui est appelée AOF et qui avait pour capitale Dakar.
Et il y tient, cette origine.
Il tient parce que Boubacar Ba est un homme qui est nigérien et burkinabé. À l'époque, c'était la Haute Volta. Il est né à Djapaga, au Burkina actuel. Il a été déclaré à Saï au Niger. Il a fait ses études primaires au Burkina, à Djapaga, à Fadangourma, est venu faire le collège moderne de Niamey. Ensuite, il a poursuivi ses études au Sénégal. Vous voyez, son expression AOFienne tient son cours. De ce point de vue, on peut considérer même que nous avions un peu reculé, parce qu'à l'époque, c'était une partie intégrée avec Dakar pour capitale, et les populations allaient tranquillement, sans aucune entrave, entre les pays les uns et les autres.
Certes, il y avait le colonisateur, mais enfin, c'était peut-être en quelque sorte une préfiguration des États-Unis d'Afrique.
Il y avait une véritable intégration. L'Afrique de l'Ouest était quasiment intégrée avec Dakar pour capitale et avec les autres pays qui étaient aussi organisé. Donc, aujourd'hui, le souci de l'intégration africaine avec la CEDEAO, c'est d'aller vers une sorte des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui était déjà l'AOF. Et Boubacar Ba, dans le livre, parle de ses condisciples maliens, de ses condisciples soudanais. À l'époque, on disait soudanais, pas maliens, de ses condisciples béninois, de ses condisciples guinéens. Et après, lorsqu'ils se sont retrouvés à gérer les affaires du pays, les choses étaient beaucoup plus simples. Parce que, puisqu'ils se connaissaient, les choses se faisaient beaucoup plus simplement. On appelait un ancien condisciple qui est devenu ministre en Guinée, on appelait pour débloquer les choses, et les choses allaient plus facilement. Il y avait ce brassage, il y avait cette rencontre, et il y avait cette conscience africaine, puisque dans lui, il parle de conscience africaine. On n'est plus dans le micro-nationalisme aujourd'hui, où chacun veut tirer la chapelle vers son camp, où aujourd'hui les Béninois veulent des choses pour le Bénin, les Nigériens veulent des choses pour le Bénin. Avant, il y avait une conscience africaine, il y avait cette dynamique, la volonté de mutualiser, de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sécuritaires et économiques, rendent impérative la nécessité de cette intégration.
Et c'est pour ça que Boubacar Ba insiste dans votre entretien, dans l'entretien que vous avez mené avec lui, sur cette appartenance à l'AOF.
Absolument.
Qui peut paraître bizarre au début, on se dit, tiens, mais c'était quand même la colonisation. Mais non, on comprend l'esprit.
Oui, il y avait une conscience africaine. L'AOF, ce que l'AOF a permis, c'est justement la création de cette conscience africaine, de cette volonté de transcender les questions de frontières. Vous avez parlé de ce litige-là, parce que, bon, les frontières ont été artificielles. Boubacar Ba explique, par exemple, une partie du Burkina actuel s'est retrouvée au Niger, une partie du Burkina actuel qui était la Haute Volta à l'époque s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait quand même beaucoup de va-et-vient, et si on était resté dans l'ensemble AOF, ça aurait simplifié la question de frontières. Il y a donc cette dimension-là d'intégration régionale qui était faite pendant la période de l'AOF, dont il se réjouit.
Sadiq Kaba, on va se retrouver après le flash pour continuer à parcourir l'actualité de la semaine, et nous resterons maintenant sur le continent africain avec plaisir. À tout de suite.
Merci pour toutes ces informations sur le monde. On se retrouve pour notre promenade au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Le journaliste Sedi Kaba et auteur Sedi Kaba, notre ami, nous accompagne cette semaine. Il vient d'écrire Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel, un livre publié chez L'Harmattan. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, évidemment. Rendez-vous avec quelques-uns de vos messages aussi.
RFI.
Mais une escale en France, d'abord avec les suites des querelles familiales chez les Le Pen, affaire de famille, la suspension du fondateur du FN de sa qualité d'adhérent du parti qu'il a créé en 1972, n'a fait qu'attiser la brouille entre le père et sa fille. Écoutez ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen lundi chez nos confrères d'Europe 1.
C'est une félonie. Je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen.
La suite d'une semaine d'actualité, Sedi Kaba, ça c'est clairement énoncé.
C'est au-delà de la réalité, c'est très clair et... Il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier cette tragicomédie à laquelle on assiste, qui est à la fois politique, mais un drame humain aussi. Un père et sa fille, c'est évident que...
Parce qu'une tragédie antique.
C'est une tragédie antique, un truc un peu cornélien.
Il avait déjà renié sa première fille, Marie-Caroline, il me semble. Oui. Maintenant, c'est Marine.
Oui, absolument. Et on ne sait pas. L'escalade, c'est pas encore fini. D'autres épisodes sont à prévoir. Nous sommes dans un feuilleton à la Dallas, à la série américaine.
Alors, je sais pas comment ça dans la rubrique justice politique, il faut signaler aussi que Nicolas Sarkozy est et n'en a pas fini avec les histoires de justice. L'ancien président risque un procès dans l'affaire des écoutes pour soupçon de trafic d'influence.
C'est exact. La Cour d'appel de Paris a validé l'essentiel des écoutes, sauf un passage entre son avocat et le bâtonnier. L'essentiel des écoutes a été validé par la Cour d'appel et telles que les choses se présentent, c'est un obstacle dans la course à son retour à l'Élysée, puisque Sarkozy, clairement, ambitionne de revenir à l'Élysée, d'être candidat de l'UMP en 2017 face à François Hollande. Il lui faudra donc surmonter les obstacles judiciaires. Il n'y a pas que cette affaire, il y a d'autres affaires, mais c'est l'affaire qui le menace le plus, cette affaire Bugmalion. Et je crois que cet épisode-là, aujourd'hui, risque de compromettre cette volonté de retour.
Alors, Robert Ménard, que vous avez bien connu, que nous avons tous connu quand il était un reporter sans frontières et qui déclare lundi, sans le faire exprès, au détour d'une émission de télévision, que dans sa ville, il y a 64,6% d'élèves musulmans dans les écoles primaires et maternelles, selon des statistiques. Nié après. Mais du coup, une polémique est née, comme peuvent naître les polémiques en France, sur la question des statistiques.
Absolument. Et Robert Ménard le dit, il le dit très clairement dans cette émission de France 2, mots croisés. Et il précise qu'il a obtenu ces chiffres-là en partant du prénom des élèves. Lorsque quelqu'un s'appelle Mohamed, il est forcément musulman. Et moi, d'expérience, par exemple, dans le cas du Burkina Faso, que je connais très bien, on peut s'appeler Yacouba et ne pas être musulman. On peut s'appeler Youssouf et ne pas être musulman. Donc, sa démarche est totalement erronée, en plus du problème sur le plan éthique qu'elle pose. Vous savez que Ménard, quand même, avait une excellente image en Afrique, puisqu'il a été secrétaire général des Reporters sans frontières au Burkina, dont je parle, dans l'affaire Norbert Zango. Robert Ménard s'était engagé à fond. Il a même été expulsé du Burkina Faso. Et ce monsieur, aujourd'hui, se retrouve de l'autre côté à faire ce qu'il est en train de faire. Ça surprend. Ou on s'était trompé, on n'avait pas compris son jeu, ou quelque chose lui est tombé sur la tête et qu'il a complètement transformé.
Alors, c'est dit que l'actualité, c'est aussi les cérémonies officielles du 8 mai, hier, 70 ans après la capitulation allemande. Je rappelle que demain, dans Idée, nous vous proposons donc une visite de l'exposition Churchill-De Gaulle aux Invalides à 17h10, heure de Paris, dans le magazine Idée. Il faut préciser que parmi les combattants, il y avait aussi des soldats de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire français, les tirailleurs sénégalais.
Absolument, qui ont combattu très vaillamment, qui ont débarqué, qui étaient en première ligne dans certains, qui ont participé et beaucoup, la plupart plupart sont aujourd'hui décédés parce que la guerre est très ancienne. Mais il y avait justement des soldats qui étaient venus de ce qu'on appelait les colonies, qui ont participé à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, même si par la suite il s'est posé ce que vous connaissez, le problème des anciens combattants africains qui n'ont pas eu la retraite qu'ils devaient avoir. Il y a eu des discussions, donc la France notamment s'est engagée à revaloriser la pension de ces retraités africains.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir Sadikaba au Burundi, où les manifestations contre le troisième mandat du président sortant, Pierre Nkurunziza, continuent. Elles ont même gagné du terrain au sens propre comme au sens figuré. Reportage mardi, par exemple, à Bujumbura, de notre correspondant Esdras Dikumana.
Pour la première fois, des centaines de jeunes manifestants contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sont parvenus au boulevard du 28 novembre, un important routier qui relie le centre et le nord de la capitale. Ils vont alors occuper le pont de la République pendant plus d'une heure, obligeant notamment les pauses du chef de l'État à changer d'itinéraire. Les manifestants chantent et dansent, un de leurs leaders, Audifax Davito Oreiller, s'impose contre les policiers qui les ont déjà chargés une première fois.
Lorsqu'on mettait les mains en l'air, ils nous ont tiré dessus à balles réelles. Nous avons des gens blessés un peu partout. Et maintenant, nous continuons notre route jusqu'à la place de l'indépendance. Parce que nous disons non au troisième mandat de Nkurunziza.
Alors que policiers et manifestants sont pratiquement nés à nez, une camionnette de police surgit à toute vitesse, s'arrête pile et ils ouvrent le feu sans sommation. Lacrymogène, bombe assourdissante, tir à balles réelles, tout y passe. Les manifestants repliquent à coups de pierre. Dans un fossé, un homme est couché dans une mare de sang. Une balle l'a touché dans le dos alors qu'il s'enfuyait. Il râle et fait de gros signes de croix. Après une vingtaine de minutes, les policiers burundais se retirent petit à petit. Les jeunes militants d'opposition reprennent peu à peu leur position. Tous sont désormais prêts à rejouer encore une fois la même scène macabre.
Alors pour bien montrer la tension qui règne à Bujumbura, écoutez maintenant ce reportage de notre envoyée spéciale Sonia Rollet, mercredi, alors que quatre ministres des Affaires étrangères de l'Afrique de l'Est étaient venus sur place pour étudier une sortie de crise, prévoyant un sommet régional la semaine prochaine, le 13 mai.
Le ministre tanzanien des Affaires étrangères doit interrompre sa déclaration. Audifax David Oreiller essaie de lui parler. Policiers et officiers des renseignements sont en train de faire mouvement sur lui. Le ministre lui avait promis qu'il ne serait pas inquiété, même si on avait tenté plus tôt de l'arrêter alors qu'il était sorti un instant de la réunion.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, qu'est-ce qu'ils veulent m'arrêter? Parce que justement, j'organise les manifestations. Bah, je dis, du moment que cette police continue de tuer nos citoyens, nous n'allons pas accepter qu'on soit tué de cette manière.
Non. Alerté sur la possible arrestation de ce binational, l'ambassadeur des Pays-Bas s'est rendu dans l'hôtel où Audifax, David Oreiller et ses réfugiés et continue de protester face aux caméras.
Monsieur l'ambassadeur, il n'y a rien que vous puissiez faire?
Non, il ne peut rien faire.
Non, je ne peux rien faire. Non. Je suis ici pour observer ce qui se passe. Il est citoyen néerlandais.
On n'est pas des esclaves dans notre propre pays.
Au bout de deux heures, Audifax David Oreiller finit par se rendre à la police, sa famille, sa femme notamment est en larmes, et devant les caméras, juste avant de rentrer dans la voiture.
Imbono, yes, yes, la victoire, elle est à nous.
Finalement, vers 23h, après d'intenses pressions diplomatiques, Audifax David Oreiller est finalement libéré.
Mercredi soir, le président Nkurunziza s'est adressé aux Burundais pour prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui lui a reconnu le droit de se représenter pour la troisième fois à la présidence.
Nous prenons acte de la décision de la Cour constitutionnelle et nous nous engageons à la respecter. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que si le peuple burundais nous fait encore confiance, ce sera le dernier mandat, tel que stipulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous invitons les responsables politiques et de certaines organisations de la société civile à rompre avec l'habitude d'utiliser la population, en particulier les enfants, comme bouclier humain dans les actes de violence. Les écoliers, les étudiants, tous doivent retourner à l'école sans délai. Leur place se trouve là-bas et non dans la rue. C'est pour cela que nous ordonnons les enfants âgés de moins de 18 ans et qui ont été arrêtés au cours des manifestations doivent être relâchés sans délai. Les personnes majeures arrêtées et emprisonnées à cause de ces manifestations pourront être relâchées elles aussi lorsque le mouvement aura cessé. Nous invitons les leaders des partis politiques à se rendre sur le terrain en vue de mobiliser leurs militants pour une participation massive aux prochaines élections, car il n'y a pas d'autre solution à la crise actuelle que d'aller aux élections.
Alors, sur ce mouvement de protestation au Burundi, un mouvement qui ne faiblit pas, donc je ne saurais trop vous recommander d'écouter nos journaux ou d'aller sur le site de la radio. À souligner aussi dans l'actualité africaine la poursuite des manifestations en Guinée, à Conakry notamment. Je rappelle que les partis d'opposition demandent que les élections communales aient lieu avant l'élection présidentielle.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Bonjour à Nestor qui Kisangani en RDC nous écrit. Il écrit ceci: pour l'intérêt général et pour prévenir l'embrasement de la crise burundaise sur la région des Grands Lacs avec un afflux de réfugiés en RDC et au Rwanda, j'exhorte le président burundais à revenir sur sa décision. Sinon, il est encore temps à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, écrit-il. Bonjour à Ouma et Binetou à Dakar et à Baba Ousmane, par exemple. Pas Tierno qui, de la baie en Guinée, nous écrit cela en nous saluant, et je le salue également. Les pays qui avaient participé à l'invasion de la Libye par la coalition de l'OTAN, écrit-il, doivent désormais se partager la responsabilité sur les migrants en Méditerranée, leur sauvetage, leur intégration ou leur rapatriement dans leur pays d'origine, mais pas seulement l'Italie, c'est injuste.
Semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Sedy Kaba pour commenter l'actualité et pour son livre aussi, Entretien avec Boubacar Ba, publié aux éditions L'Armatan. Les événements au Burundi ont déclenché pas mal de réactions de nos auditeurs. Je salue par exemple Théodore au Tchad, Oumar qui est étudiant à l'université de Yaoundé et Clovis qui habite Bujumbura. Il demande le soutien de la communauté internationale. Alors votre regard m'intéresse, Sedy, sachant qu'hier le président Nkurunziza, hier vendredi, a officiellement déposé sa candidature. Un troisième mandat.
Alors, on n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. On avait des signes. Il était évident, il était entendu que si le président Nkurunziza décidait de se présenter à un troisième mandat, qu'il y aurait cet embrasement. En dépit des signes qui avaient émergé et qu'on a vu, le président a persisté à se présenter. Et aujourd'hui, le pays se trouve au bord du gouffre. Le Burundi a connu une guerre civile dont il est sorti en 2000. Avec l'accord d'Arusha. Il était sanglante guerre civile. Il y a encore des armes qui circulent dans le pays. Il y a des gens qui sont armés. Il y a des milices qui peuvent se créer. En dépit de tout cela, le président choisit cet aveuglement d'entraîner son peuple et sa population simplement pour se maintenir au pouvoir. Alors que les accords d'Arusha stipulent très clairement que le président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Nkurunziza prétend que le premier mandat, il a été élu par l'Assemblée nationale, que ce mandat ne compte pas. Le seul mandat qui compte, c'est celui dans lequel... Mais même si ça avait été le cas, compte tenu de la crispation autour de son mandat, il peut, dans l'intérêt de son pays, c'est ça qu'on demande aux dirigeants africains, c'est être capable de renoncer à leur propre confort, à leur soif du pouvoir l'exemple du Burkina Faso, le président Compaoré, malgré tous les conseils de ses amis qui sont venus lui dire de se présenter, a persisté et se retrouve aujourd'hui en exil. Il ne peut plus mettre le pied. Nul ne peut savoir ce qui va se passer demain au Burundi. Il y a des risques que le président Nkurunziza soit emporté par la Russie.
Il y a des réfugiés hein, vers le Rwanda.
Il y a des réfugiés au Rwanda. Il y a le vice-président de la Cour constitutionnelle qui a pris la fuite et qui a jeté un discrédit sur la décision du Conseil constitutionnel.
Alors, le président du Burundi parlait dans son allocution des jeunes qui devaient rentrer chez eux, ne pas manifester, mais il faudrait aussi parler des jeunes favorables au régime, les jeunes ultra, en quelque sorte, défenseurs du régime, les fameux, trop fameux, les Imbo Nirakure.
Absolument, qui sont instrumentalisés, qui sont utilisés par le pouvoir. L'autre camp aussi va instrumentaliser la jeunesse.
Beaucoup de nos auditeurs nous attirent notre attention sur leur rôle dans les manifestations aujourd'hui. Hein,
absolument, absolument. Et sur leur rôle, on a même entendu certaines sources dire que beaucoup de ces jeunes sont infiltrés dans les forces de l'ordre pour tirer sur les manifestants. Donc il y a, de toute façon, que ces faits soient avérés ou non, il y a aujourd'hui un risque d'embrasement. Le Burundi est au bord du gouffre. Il faut que d'une part que les autorités burundaises entendent raison et créent une situation d'apaisement, et d'autre part que la communauté internationale. De ce point de vue, je pense que l'Union africaine doit aller encore beaucoup plus loin, puisqu'elle a dit simplement que les conditions d'une élection ne sont pas réunies. Mais il ne faut pas attendre l'embrasement. Il ne s'agit pas d'attendre que le conflit s'éclate pour jouer aux pompiers. Il faut déjà le prévenir, il faut accompagner. Il y a des choses qui sont encore possibles pour sauver la paix sociale au Burundi, il faut le faire.
Jour en Afrique.
CDX, Sadiq Abba, partons pour le Nigeria maintenant. Maureen Grisot, notre correspondante, s'est rendue à Yola, dans l'extrême est du pays, où ont été amenées 275 femmes et enfants détenus jusqu'ici par Boko Haram et libérés par l'armée nigériane la semaine dernière. Écoutez son reportage.
Ils ont les traits tirés, paraissent encore désorientés, mais ces rires d'enfants sonnent déjà comme l'espoir que la vie reprend le dessus après le traumatisme. Dans ce bâtiment d'un camp de déplacés internes, à la périphérie de Yola, dans la fournaise de cette région aride, la vie s'organise. On balaye, on lave ses vêtements, mais surtout on se coiffe, des gestes du quotidien qui leur étaient jusque-là interdits. Les équipes médico-sociales ont commencé leurs entretiens avec ces femmes et ces enfants qui ont vécu l'horreur et restreignent depuis les contacts avec l'extérieur. Christiana a 19 ans. Elle fait partie d'une première vague de ces habitants du nord du pays qui ont fui l'avancée des islamistes il y a un an. Elle connaît plusieurs des nouvelles arrivées qui lui ont raconté leur calvaire.
Je me sens si triste parce que Boko Haram les punissait, ils les battaient tous les jours. Ils les ont emmenés dans cette forêt avec rien du tout, pas d'eau, pas de nourriture. Regardez ces tout jeunes enfants qui ressemblent à des squelettes. Les jeunes filles, elles étaient utilisées comme esclaves, certaines ont été mariées. Il y en a même qui sont enceintes.
Les humanitaires tentent de savoir combien de ces femmes portent l'enfant de leur bourreau, mais elles ont encore du mal à parler de cette épreuve si intime. Certaines sont encore hospitalisées pour des plaies par balles notamment. Des blessures qui soulignent l'importance pour l'armée nigériane d'expliquer de quelle manière toutes ces personnes ont été libérées.
Suite d'une semaine d'actualité au Mali, cette fois où, guerre ou pas, la corruption continue, Sadiq Abba, le monsieur anti-corruption du pays, le vérificateur général pour être exact, vient de publier un rapport sur la question pour la période 2013-2014 à Bamako, Serge Daniel, jeudi.
Dans son rapport, le vérificateur général est très précis. En 2 ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Citons des exemples. Afin de mettre en poche des centaines de millions de francs CFA, des travailleurs ont fabriqué de faux documents pour justifier des dépenses. Le monsieur anticorruption au Mali et son équipe ont découvert également de nouvelles formes de fraude. Plusieurs services de l'État sont concernés. Une astuce, on commande par exemple officiellement sur papier une machine dernier cri et à l'arrivée avec le fournisseur, on s'arrange pour réceptionner une machine d'occasion. Ça permet de détourner la différence. Le rapport donne beaucoup d'autres exemples et on se rend compte que les délinquants à col blanc sont plus nombreux que jamais au sein de l'administration malienne. Pour s'enrichir, un autre procédé plus simple, le non-reversement au trésor public des ressources collectées. Reste maintenant la suite réservée aux différents rapports du vérificateur général. Certains pensent ici que la justice travaille trop lentement et que tous les coupables ne sont pas poursuivis.
Sachez aussi dans l'actualité africaine que la justice centrafricaine va engager des poursuites contre les militaires français soupçonnés de viol d'enfants à Bangui. La justice française, elle, a annoncé jeudi l'ouverture d'une information judiciaire contre X. Un juge va donc mener une enquête. Rappelons que les informations sur ces viols sont parvenues à la justice à Paris il y a 9 mois. Suite d'une semaine d'actualité, Cédic, vous étiez effaré en écoutant le reportage, la correspondance de Serge Daniel sur la corruption au Mali.
Ah oui, non, parce que c'est une évasion des ressources budgétaires du Mali, cette corruption. 234 millions d'euros, 153 milliards de francs CFA, ça représente une énorme somme dont le Mali a besoin pour développer l'éducation des enfants, pour développer l'infrastructure, pour développer l'accès à l'eau potable, toute cette somme. Et aujourd'hui détourné, et je trouve ça absolument scandaleux, d'autant que c'est à travers des marchés publics au Mali comme dans d'autres pays que s'organise cette corruption, que s'organise cette évasion fiscale. On ne peut pas tendre la main au reste du monde, on ne peut pas aller organiser des tables rondes de bailleurs de fonds pour dire aux gens venez nous aider si dans nos pays même les gens se comportent de cette façon pour leur propre intérêt, pour leur propre confort, détournent des sommes importantes dont on aurait besoin pour sauver la vie des enfants, pour faire des campagnes de vaccination, etc. Je trouve ça totalement inadmissible. Il faut trouver les moyens d'en sortir. Et ce qui me désole, par exemple, dans le cas du Mali, comme dans le cas d'autres pays, lorsque les gens sont dans l'opposition, et ils sont des grands champions de la lutte contre la corruption, et lorsque eux-mêmes s'installent au pouvoir, ils deviennent eux-mêmes des partisans de cette corruption, comme si c'était un principe de « toi que je m'y mette et je reconduis les mêmes pratiques que toi ». L'autre élément de déception, c'est que la plupart des pays africains aujourd'hui se sont dotés de structures de lutte contre la corruption. Or, la corruption a augmenté même avec la création de ces structures. Elle est devenue plus importante.
Ce
qui est pour le moins inquiétant. Donc, il faut trouver des solutions et il faut, à mon avis, garantir l'indépendance de la justice, que les juges puissent enquêter, et il faut garantir aussi l'indépendance des choses qui existent déjà, l'inspection d'État, l'inspection des finances, puisque la plupart des pays se sont dotés. Par exemple, il faut absolument réserver une suite au rapport du vérificateur national au Mali. On ne peut pas faire que de rapports et puis passer à autre chose.
Avant de retrouver Boubacar Bass, ce Nigérien au destin exceptionnel, pour reprendre le sous-titre de votre livre, c'est dit qu'il faut s'arrêter un instant au Nigeria, où il faut préciser que les combats contre Boko Haram continuent. Enfin, en tout cas, l'offensive, non, cette action, absolument, avec le Niger, entre
absolument
autres.
Absolument, non, l'offensive contre Boko Haram se poursuit, d'autant que, comme vous savez, depuis que Boko Haram a perdu le contrôle des villes qu'il occupait, notamment au Nigeria, ils se sont fondus dans la population, ils continuent à faire quelques actions spectaculaires, quelques attentats suicides ici et là. Je pense que s'agissant du Niger, Boko Haram a été quasiment neutralisé sur le territoire nigérien. Les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité ont quasiment vaincu totalement Boko Haram, qui a dû se réfugier au Nigeria, même si de temps en temps il lui arrive de venir faire quelques actions isolées. Mais la lutte contre Boko Haram est une lutte de longue durée, puisque c'est une guerre asymétrique, elle va prendre du temps. Mais je suis sûr qu'avec le changement de régime au Nigeria, les choses vont s'accélérer, parce que jusqu'ici, ce qui a freiné la victoire sur Boko Haram, c'est aussi l'ambiguïté de la position du Nigeria. L'ancien gouvernement, celui de Goodluck Jonathan, ne s'était pas totalement investi dans la lutte contre Boko Haram, au point où des pays comme le Tchad et le Niger ont dû venir à la rescousse du Nigeria pour chasser Boko Haram des villes que le mouvement occupait au Nigeria.
Alors ce livre, Entretien avec Boubacar Ba, c'est dit qu'il est aussi une réflexion sur l'éducation en Afrique. Rappelons donc que Boubacar Ba, mathématicien, était le premier Africain admis à Normale Sup, qu'il a ensuite essaimé en Afrique, il a enseigné en France, il a aussi enseigné au Sénégal, il a créé à Madagascar l'Institut de recherche en mathématiques, et il a aussi créé au Niger le Centre d'enseignement supérieur CES, qui a donné naissance à l'université de Niamey. Il a enseigné, il a été lui-même, il a suivi des cours à l'université de Dakar. C'est un créateur, cet homme-là, en plus.
Absolument, absolument. On peut le dire, c'est un créateur, c'est un formateur, c'est un enseignant dans l'âme. Boubacar Ba avait du plaisir à dire qu'il a assuré la formation des premiers étudiants nigériens, dont le président Issoufou, le ministre de l'énergie Fumoke Gado, etc. Donc, du lustre nigérien ont été ses anciens étudiants. Dans le livre, il le dit avec beaucoup de plaisir, comment avec le président Diori, le premier président du Niger, ils ont fait avec le Femaïmaï Ghana, ils ont créé le centre d'enseignement supérieur, qui est par la suite devenu Université de Niamey. Et moi, en tant que patriote nigérien, j'ai du plaisir à parler de la façon dont cela a pu se mettre en place.
Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos auditeurs qui sont étudiants. Il y en a beaucoup qui écoutent Une Semaine d'Actualité, tout comme je salue les étudiants qui écoutent Idée tous les dimanches. Je sais que pour eux, cette émission est aussi en quelque sorte un cours, une université, via la radio, et nous en sommes très, très heureux. Et cet homme, Boubacar Ba, n'a cessé donc d'enseigner jusqu'au bout, et il a aussi pointé le doigt, et vous le faites aussi dans le livre, sur les insuffisances en matière d'éducation aujourd'hui à l'université. Vous citez un chiffre consternant, vous dites que l'université de Dakar avait été conçue pour un peu plus de 200 000 étudiants, il y en avait 690 000 en 2011.
Absolument,
Boubacar. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, oui, oui, compte tenu des conditions d'accueil qu'il aurait.
Oui, Boubacar Ba le dit, le souligne, l'évolution démographique, l'évolution du nombre d'étudiants n'a pas été suivie par la disponibilité en infrastructure. Aujourd'hui, on se retrouve dans des amphithéâtres bondés avec beaucoup d'étudiants. Certains étudiants sont obligés de prendre le cours à la fenêtre, d'autres sont obligés de rester à la maison pour photocopier les cours qui auront été pris par d'autres amis. Il y a l'insuffisance des enseignants, sans compter dans le cas de Boubacar Ba, qui est un scientifique, qui est sensible à ça, il faut à côté de l'évolution du nombre d'étudiants aussi, des infrastructures, des laboratoires. Donc, il y a toute cette dimension. Et lui disait notamment qu'il faut la mutualisation des moyens entre les pays. Par exemple, il explique qu'à un moment, on avait envisagé de créer une université commune au Niger et au Burkina Faso. À l'époque, c'était la Haute-Volta. Après, chaque pays a créé son université. Donc, il y a aujourd'hui un besoin d'investissement dans l'enseignement supérieur en Afrique.
Merci Sadiqa Ba. Il faut lire donc ce livre d'entretien qui s'intitule justement Entretien au pluriel avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. On l'a bien compris, un livre publié chez l'Harmattan. Merci Sadiqa Ba d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir encore une fois.
Moi aussi, c'est un immense plaisir de venir à Une Semaine d'Actualité.
Une Semaine d'Actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, vous le savez, à podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Je vous retrouve donc demain pour le magazine Idée, un numéro hors série que nous avons enregistré au musée de l'Armée, aux Invalides, à l'occasion de l'exposition Churchill-De Gaulle. Nous allons vous emmener voir l'exposition en compagnie de l'un de ses commissaires, Karine Lachèvre, cela dans le contexte des commémorations du 8 mai 1945, qui marque, on le sait, la capitulation sans condition nazie, et l'année aussi du cinquantenaire de la mort de Churchill. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.